des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, soyez les bienvenus à l'émission des livres plein les oreilles, consacrée, comme son titre l'indique, si au cas... au cas où vous ne la connaîtriez pas, au livre audio. Aujourd'hui, autour de la table, grande question. Grande question existentielle, non, vraiment, j'insiste. Vivez-vous la vie que vous vous êtes imaginée? Si tant est que vous vous soyez imaginé une vie, en fait. Mais c'est tellement une bonne question que Christine Michaud en a fait un bouquin. Et même si elle vit en ce moment sous des cieux un peu plus cléments, qu'elle avait sans doute imaginé d'ailleurs, nous nous entretiendrons avec elle par téléphone et nous aurons, vous et moi, la chance d'entendre la voix qui a porté ces mots dans les studios de Vues à Voix. De Vues et Voix, pardon, j'ai nommé la pétillante Anne Casabonne qui est déjà là. Bonjour,
bonjour
Anne.
Bonjour.
À l'émission également, la rubrique « J'ai des petites nouvelles pour vous » qui concerne bien évidemment le livre audio et puis notre adorable porte-parole, grande liseuse devant l'éternel, Claudia La Rochelle, sera de cette émission en seconde partie pour nous présenter quelques-uns de ses coups de cœur, tous disponibles en audio, bien évidemment. Évidemment, d'ailleurs, ce serait mieux de le dire comme ça. Maintenant que le plastique est au banc des accusés, fini les parties de Tupperware, vous êtes d'accord avec moi, à l'époque, qui n'a pas connu les parties de Tupperware? N'empêche que c'est vrai que c'est solide le plastique, hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai encore, quoi. J'en ai qui ont 40 ans, qui datent de l'époque de ma mère. Mais saviez-vous qu'il existe en France des soirées de Tupper Livre? Ils doivent dire d'ailleurs Tupper Livre. Et je vais vous en reparler en seconde partie également, sans compter que je vais attirer vos oreilles sur d'autres bouquins accessibles en audio gratuitement ou commercialement. Alors, je me pose la même question à chaque fois que je prépare cette émission. Avec quelle chanson ou musique vais-je mettre la table pour recevoir mes premières invitées dans ce cas-ci? Généralement, la première idée est souvent la bonne. Je vous laisse le soin d'en juger. On commence avec Jacques Dutronc. Toute ma vie, j'ai rêvé.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion. Détachez vos ceintures, libérez vos complexes, tenez-vous par l'index, surveillez vos réflexes, en avant l'aventure. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, nous sommes en altitude. Perdez vos habitudes, changez vos attitudes. Tout le monde se dénude, la servitude. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de ne plus jamais passer par les bas et les hauts de notre petite terre. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Fini le toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, J'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.
Enfin seul et tenaillé par la curiosité, je me dirige allègrement vers cette chambre tout au fond de la maison. En fait, elle ressemble à une annexe, un vaste ensemble de pièces greffées quelques années plus tard à la construction initiale. Un splendide bureau tout en bois précieux occupe le centre de l'espace. Deux des murs sont percés d'immenses fenêtres avec vue imprenable sur le canal, la jolie cour et la piscine de forme parfaitement ovale. Les deux autres cloisons sont tapissées de bibliothèques, du sol au plafond et bourrées de livres. J'imagine sans difficulté Franny assise ici des heures durant pour inventer ses histoires et les peaufiner entourées de ses auteurs favoris. En effet, ma grand-mère était écrivaine. Une carrière tardive qui avait sans doute découlé de ses longues années d'expérience comme enseignante à l'école primaire. Tout avait commencé par des contes pour enfants. Et au cours des 20 dernières années, soit depuis son installation en Floride, elle avait publié presque autant de livres. Mais depuis un lustre ou deux, certaines de ses œuvres étaient destinées aux adultes. Je n'avais lu que le premier roman de la série, une intrigue que j'avais jugée beaucoup trop spirituelle et un brin farfelu. Aujourd'hui, j'espère retrouver tous ses ouvrages et m'y replonger. Question de mieux connaître mon aïeule. Sur le bureau, on dirait qu'une boîte antique tout en métal ornée de jolis motifs fleuris m'attend, posée là, au beau milieu du plan de travail. Elle semble m'appeler ou, dit plus justement, elle me magnétise et m'attire jusqu'à elle. Je remarque une inscription gravée sur le couvercle. « Live the life you love. Vis la vie que tu aimes. »
Et tout est là. Vous venez d'entendre les mots de Christine Michaud qui doit être au téléphone en ce moment. Bonjour Christine.
Oui, et là vous venez de me faire passer par toute une gamme d'émotions. C'est fabuleux. Autant par la chanson qui jouait juste avant que je ne connaissais pas et qui m'a fait rire aux éclats.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être
une hôtesse de l'air. Une de mes meilleures amies est hôtesse de l'air et je suis avec elle aujourd'hui. C'est quand on dit les synchronicités.
Eh oui, madame. Et puis,
j'ai... d'entendre Anne, voilà. mon texte. Non, mais ça, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Je suis profondément touchée. Mais quel cadeau, Anne Casabonne.
Ah, ben, ça me fait tellement plaisir que tu aies pensé à moi, Christine. C'est vraiment gentil. Puis j'ai beaucoup aimé faire ce livre.
Oui, bon, mais tant mieux.
Alors, Christine, vous... On vous connaît quand même beaucoup, aussi bien les gens qui vous connaissent, parce que on a quelques amis en commun qui m'ont parlé de vous. Et vous êtes quelqu'un qui aimait faire le bien autour de vous. Vous aimez que les gens soient heureux et vous faites en sorte, que ce soit en tant que chroniqueuse ou qu'auteur, de nous donner toutes sortes d'outils. Qui peuvent nous permettre justement de parvenir à vivre cette vie que nous nous sommes imaginée, ou au moins d'en imaginer une, c'est-à-dire au moins de nous permettre de rêver. Est-ce que ça, c'était la vie que vous vous étiez imaginée quand vous étiez jeune?
Une excellente question. Non.
Non?
pas quand j'étais jeune, peut-être plus tard, en cours de route. Puis je pense que la vie qu'on s'imagine, on se l'imagine vraiment... d'une étape à l'autre, c'est pas nécessairement sur un très long terme, à mon avis. Puis juste quand vous parliez de bonheur, pour moi, le bonheur, c'est un état... en fait, c'est la meilleure définition, je pense que j'ai déjà entendu, c'est Thich Nhat Hanh qui disait « Le bonheur est constitué de non-bonheur. Mmh. » Alors, tu sais, il y a un danger aujourd'hui dans notre société à chercher le bonheur à tout prix, que ça devienne avec une pression et tout. Je pense que le bonheur vient justement quand on accepte davantage la vie avec ses hauts et ses bas, qu'on danse avec elle d'une certaine façon. Alors, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai fait toute ma vie, danser. Et c'est ce que je voulais devenir quand j'étais petite. Je voulais devenir danseuse de ballet.
Oui.
Ou sinon, bonne sœur. En fait, j'avais trois envies. Vous allez voir comment c'est particulier, là, puis c'est un peu, ça allait dans tous les sens, surtout. Donc, j'étais bonne sœur, danseuse de ballet ou fleuriste. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai mixé les trois.
Mais c'est ça, exactement. Exactement.
Ouais. Mais bonne sœur, recluse ou cloîtrée, ou quelle sorte de bonne sœur?
Je ne sais pas si j'aurais été cloîtrée, c'est une bonne question, là, mais
moi, Non, vous aimez trop les humains pour ça.
Peut-être, mais
Christine.
Oui, mais je suis très solitaire à mes heures quand même.
Ah.
J'adore, moi, la méditation, prier, méditer. J'ai été élevée beaucoup par ma grand-mère maternelle qui était extrêmement pieuse et spirituelle. Donc, il m'amenait à l'église. Mais elle avait une façon, elle aurait dû justement faire les homélies à l'église parce qu'elle avait une façon de parler de ça qui était sans, en enlevant les dogmes, en enlevant tout ce qui faisait peur, en étant ouverte sur à peu près toutes les religions. C'est un peu comme le personnage de Pi, là. Je pense qu'elle était d'aucune religion, mais de toutes les religions, elle prenait ce qui faisait son affaire. Puis elle se bâtissait quelque chose d'intéressant avec ça puis qu'elle me retransmettait.
Parlons-en de la grand-mère, Franny.
Oui.
Oui, forcément, là, vous me l'amenez sur un plateau. Bon, d'abord, disons-le, tous ces personnages-là sont totalement inventés. Hein?
Oui.
Bon, même si peut-être auprès de vous, là, vous me parlez de votre grand-mère, et là, on sait que l'un des personnages principaux, même si elle est absente, c'est quand même la grand-mère qui est dans toutes les pages. Rapidement, oui. L'histoire, hein? je dis rapidement parce qu'à mon avis, oui. Et vous serez peut-être d'accord avec moi, mais l'histoire est un prétexte. L'essentiel est ailleurs. Alors, il y a Franny, cette grand-mère qui est excentrique, allumée, brillante, hein, une grand-mère qu'on rêve tous d'avoir, et ses amis. Et ils sont en Floride. D'ailleurs, on se dit, tiens, pourquoi pas à Chibougamo, mais c'est vrai que...
Bon, avouez que la Floride, c'est un peu plus chaud. J'allais dire exotique, on va dire chaud.
Alors donc, il y a Franny qui décide de faire un cadeau à sa petite fille qui est Corinne, qui elle, bon, est une fille qui n'est pas malheureuse au Québec, mais dont on peut pas dire qu'elle est accomplie non plus. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans la culpabilité. Dans les 50 premières pages, je pense que j'ai souligné le mot culpabilité au moins 5 fois. Elle est
peut-être trop mis, j'aurais dû en enlever.
Non, pas du tout. Ah, pas du tout, Christine.
Je vous taquine.
Ah, bon, non, parce que c'était pas du tout dans ce sens-là, évidemment, que j'ai fait ce commentaire. Et puis, elle est comme la majorité, je dirais, d'entre nous. Elle a parfois cette sensation d'être paralysée, d'avoir cessé de croire en ses rêves, ou encore, et là, je vous cite, hein, ce sont des mots du livre, comme s'ils étaient morts avant d'avoir osé naître. Et c'est vrai que c'est un peu déprimant de vivre comme ça. On ne se croit pas. On ne s'aime pas. Comment ça se fait qu'on ne s'aime pas à ce point-là? Est-ce que c'est à cause du narcissisme qu'on a tellement pointé du doigt, Christine Michaud?
Je ne sais pas exactement. Ça dépend aussi, je pense, de ce qu'on a reçu. Puis là, je ne mets pas la faute sur les parents parce que je trouve que c'est tellement facile de faire ça. Je pense que toute personne qui nous a accompagnés dans notre cheminement a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait ou ce qu'elle était, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça fait même partie de notre rôle ou notre mandat ici sur Terre, là, si on parle d'une façon plus spirituelle, puisqu'on perçoit ça dans tellement d'humains. Ben, je me dis, est-ce que ça ne fait pas partie de la mission terrestre d'essayer de retourner vers ce sentiment d'être profondément aimé, de savoir qu'on est vu, reconnu. Je veux dire que juste le fait d'être vivant est déjà très honorable.
Mais des fois aussi, c'est l'orgueil qui nous empêche d'avancer, je trouve. Je ne sais pas si je cherche depuis tantôt la façon de l'exprimer, là, mais c'est parce que cet orgueil-là, au contraire de nous ambitionner, des fois, on a l'impression que ça nous étouffe. Tu sais, comme Corinne, quand elle disait qu'elle était à faire du journalisme, mais de bas étage, entre guillemets. Mais elle se trouvait dans cet état-là. On dirait que c'est l'orgueil qui l'empêchait de s'exprimer, ou je sais pas, on dirait que c'est... Je suis pas capable de mettre le...
Il y a un paradoxe, je crois, entre peut-être, puis là, je réfléchis en même temps qu'on se parle, entre le fait que de l'humain qui vise haut, pour reprendre, en fait, c'était un couple d'amis à moi, là, Eric et Sophie Edelman, qui publient d'ailleurs un livre, Les enseignements d'Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins disait, dites-leur de viser haut. Mm. Alors, peut-être qu'en l'humain, il y a cette envie, ce besoin, oui, de se réaliser, de s'accomplir, donc de viser haut. Puis en même temps, ben, peut-être pour pas qu'on se perde trop vite, ou je sais pas que ça... Il y a une partie qui nous tient au sol aussi, peut-être un peu trop, oui, de par l'orgueil, de par nos peurs, nos manques. Tu sais, moi, je sais que je travaille depuis, je vais avoir 50 ans cette année, puis je travaille encore sur mon manque de confiance. Donc, et j'avais une réflexion par rapport à ça aussi récemment, parce que je me disais, quand on voit tous les livres de développement personnel, les trucs de coaching ou de toutes sortes d'affaires là, qui te promettent, qui vont te dire, ben voici là, la solution en temps d'étape, puis là, tu vas avoir pleinement confiance en toi, puis tout va bien aller. Puis là, je suis rendue à me dire, ouais, ben là, à 50 ans, ben ouais, j'ai pas trop compris, ou je sais pas, là, il y a quelque chose que je fais pas de la bonne façon. Puis ce qui m'est venu, c'est, et si la vie, c'était plutôt d'accepter humblement nos manques autant que nos forces et tout, puis de justement apprendre à danser,
à jongler avec
tout ça.
Mais aussi, ce qui nous freine aussi, c'est les attentes, je trouve. Des fois qu'on vise trop haut. Et parce qu'à chaque fois, on a justement des embûches qui ne nous permettent pas de vivre les buts qu'on s'était fixés. Ben là, ça nous ramène à soi, puis ça nous rapetisse. Au lieu justement de je vais prendre l'expression que tu utilises là, de danser avec tout ce qui nous arrive, puis d'en tirer profit.
Et on revient toujours à ce fameux moment présent. Et le moment présent, c'est pas juste que de la joie, du bonheur et du sourire. Non. Et lorsqu'il s'agit d'adversité, on devrait être capable, et je pense, Christine Michaud, que c'est ce que nous apprend à faire la méditation, c'est à accepter ce moment présent-là, et donc l'adversité éventuellement quand elle se présente. Et donc ce sont toutes ces leçons-là, pour en revenir à votre bouquin, parce que là, nous voilà partie tout d'un coup, et c'est très bien comme ça, mais donc cette Franny, cette femme exubérante qui vit dans une maison absolument hallucinante, qui est non seulement pleine de souvenirs, mais pleine de messages. Et puis, il y a ce groupe-là qui s'appelle les Capteurs de Rêves, en fait, en anglais.
En français,
voilà, c'est ça. Et donc, ils vont essayer, justement, de lui enseigner. Ben, regardez, on va écouter un autre extrait, parce que c'est exactement... Moi, je ne dirais pas le mot, parce que c'est tellement le bon mot que vous avez eu, et c'est tellement bien lu par Anne Casabonne. Un deuxième extrait.
Ma chère Corinne, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai toujours cru qu'il valait mieux être prévoyante dans la vie et clairvoyante, mais ça, c'est un autre sujet dont j'aurai l'occasion de te reparler. Plus je m'approchais de mon 100e anniversaire, plus mes chances de demeurer dans cette incarnation physique s'amenuisaient. Il fallait bien se rendre à l'évidence. J'étais convaincue que c'était à toi que je devais écrire, et je dois avouer que secrètement je l'espérais, car j'avais un cadeau à te remettre. Parce que oui, c'en est un, celui que je souhaitais t'offrir depuis plusieurs années déjà, celui que j'ai essayé de te donner à plusieurs reprises, mais je jugeais que tu n'étais pas encore prête pour l'accepter. Ce présent est le courage. J'ose croire que mon départ t'inspirera la hardiesse nécessaire pour sortir de ta zone, t'ouvrir et t'intéresser au meilleur de toi et de la vie. Te voilà dans ma maison pour faire le tri de mes affaires, et je te demande de prendre tes aises, tu es désormais chez toi. En séparant le bon grain de livret dans mes possessions, peut-être en profiteras-tu pour faire le ménage dans tes pensées et dans ton cœur. Victor Hugo disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». En effet, je crois que le temps est arrivé pour toi de vivre la vie que tu t'es imaginée.
Le courage.
C'est un beau cadeau.
C'est un beau cadeau. Anne Casabonne, Ce livre-là, donc vous l'avez lu pour Vues et Voix, il est maintenant disponible en audio. Et honnêtement, votre lecture apporte beaucoup plus encore à ce bouquin. Christine, oui, parce que vous êtes... Anne, je me disais en vous écoutant, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une lecture. Jamais je ne vous ai imaginé en train de lire un texte. J'ai vraiment imaginé une femme qui s'appelle Corinne, et à qui il arrivait toutes ces mésaventures-là.
Mais c'est peut-être la façon aussi que
c'est écrit.
Que c'est écrit, parce que moi-même, je me suis pris au jeu. J'ai même fait une recherche Google, mon Dieu, je ne me souviens plus pour quel personnage. Je pense que c'est pour Corinne. Je me suis demandé voir si elle avait existé. C'était assez nono. Fait prendre au jeu. C'est fou, parce que j'ai cru à son prix qu'elle avait gagné. J'ai vraiment cru à tout ça. Fait que peut-être que ça influence.
Anne Casabonne, quelquefois, quand vous êtes sortie du studio ou d'ici, de chez Vues et Voix, en lisant ce livre à haute voix, est-ce que vous vous êtes dit, ça m'interpelle, ça, est-ce que, sans avoir bouleversé votre vie, est-ce qu'il y a des éléments de ce livre à un moment donné?
Ben, c'est sûr que tu fais des c'est un peu un miroir. Tu te vois manquer de courage. Souvent, tu te vois pas canaliser tes énergies au bon endroit. Souvent, tu te vois fâché contre des choses que tu aurais voulu faire, mais que tu n'as pas faites. Fait que donc, c'est sûr que ça a un certain reflet. C'est évident. Les chemins pour arriver à se construire, pour se réaliser, sont peut-être pas les mêmes chemins pour tout le monde, mais ceux que Corinne propose via sa grand-maman, via par les dream catchers qui disent dans le livre, c'est des chemins que certaines personnes peuvent prendre et tout à fait s'épanouir par rapport
absolument,
à ça.
Absolument. Elle a raison, Christine Michaud, elle a raison, Anne Casabonne, quand elle dit « peu importe le chemin, le principal, c'est qu'on parvient à s'épanouir ». Et c'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas forcément passer par, ben, entre autres, par la pensée positive, hein, dont il est beaucoup question ici, aller au bout de ses rêves, etc. Lorsque vous croisez, parce que je suis sûre qu'il y en a, je suis sûre qu'il y a des gens, moi vous savez, je dis toujours, d'abord, qu'un livre ne vous tombe jamais dans les mains par hasard. Quel que soit le bouquin. Je crois en ça. Mais il y a sûrement des gens que ce livre-là a dû remuer au point de bouger, au point de commencer à imaginer leur vie. Et il y en a d'autres qui ont dû faire « Oh non, pas encore
ouais. ».
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui doutent? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui restent absolument de marbre devant une proposition comme celle que Franny et ses acolytes font à Corinne?
C'est difficile de dire quoi que ce soit parce que c'est leur expérience à eux. Moi, je ne peux que respecter leur cheminement. C'est souvent, faut être prêt pour que quand les choses arrivent, se présentent, c'est comme qu'on ait envie de faire quelque chose avec ça. Puis des fois, malheureusement, moi je sais parce que j'ai été comme ça à une certaine époque de ma vie, j'ai été une victime se nourrissait de ses problèmes et peut-être même de l'attention que ça pouvait apporter. Donc ça demande du courage de se sortir de ce rôle de victime et de dire non, je vais essayer des choses parce qu'en plus on voudrait donc que ce soit magique. On voudrait que ça aille vite, on voudrait que ce soit magique.
On voudrait qu'il y ait une switch, on-off.
Oui, on-off. Mais c'est ça rarement le cas. c'est même au contraire une série d'essais, d'erreurs. Moi, j'ai souvent dit, avez-vous pensé le nombre de livres qui existent sur les mêmes sujets? On compare juste des livres de développement personnel, il y en a toute une série, une panoplie. Bon, et c'est sûr que j'ai entendu les gens dire, mais j'en ai tellement lu de ces livres-là, là. Tu sais, je sais tout ça. Ça me fait sourire parce que je me dis, oui, peut-être, avec notre tête.
Mais tu ne l'as pas encore entendu.
Non, ou tu ne l'as pas appliqué dans
c'est
ta
ça.
Vie.
C'est ça.
Parce que ça m'a pris moi-même tellement de livres, de rencontres, de même de séances de thérapie.
Puis de trouver aussi la voie de cheminement, justement.
Exactement.
Parce que, tu sais, le yoga, c'est pas comme moi, je ne suis pas une adepte du yoga parce que ça me stresse plus que d'autres choses. Mais trouver, mettons, moi, c'est danse là, dans laquelle. Qui me ferait sortir de qui, en tout cas
l'action
ce que je trouve,
l'action physique
c'est ça. Fait donc tu sais c'est de pas nécessairement se voir se projeter dans le chemin exact mais de trouver son propre chemin je pense que c'est ça que tu suggères là-dedans
sans pression c'est ce que tu viens de dire mettons. C'est ça, j'ai eu trop vu de gens se dire, OK, par exemple, on prend ton exemple du yoga, vont se dire, OK, le yoga, il paraît que c'est ça qu'il faut faire pour être heureux ou je sais pas trop, peu importe ce qu'on met au bout. Puis là, ils vont s'embarquer dedans. Puis des fois même, c'est pas ce qu'ils aiment, ils sont même pas bien, ils se forcent continuellement à aller faire ça, mais ils continuent parce que c'est ce que les gens disent.
Parce que c'est la mode du moment.
C'est la
ou quoi
mode,
que ça...
faut le faire parfaitement. Puis là, je dénigre pas le yoga du tout.
Non,
c'est une excellente pratique aussi. Mais c'est juste pour donner un exemple. Pour certaines personnes, ça va être excellent. Pour d'autres, peut-être que c'est pas ça. Ça va être autre chose. Donc, c'est pour ça que mon personnage de Corinne, même la première fois où elle se retrouve dans le centre de méditation bouddhiste
à doute.
Elle s'endort à la fin de la méditation. Parce que j'ai voulu démontrer.
Elle a mal partout, puis voilà.
Oui, c'est aussi ça la vie. Faut pas penser que la première fois qu'on va aller méditer, là, on va s'installer en position du lotus, puis on va décoller, puis on va avoir une prise de conscience incroyable, puis notre vie va changer le lendemain. C'est rarement comme ça.
Et si vous me le permettez, parce que l'entrevue tire à sa fin, ça passe toujours très vite quand on est en bonne compagnie. Mais je voudrais citer la première fois qu'elle se retrouve dans ce groupe-là, il y a un conférencier à qui vous faites dire, vous, l'auteur, et moi, ce sont les mots que je retiens, parce que je pense que ceux-là, ils sont universels. Et quel que soit l'humain, il va prendre quelque chose dans ces mots-là. L'être humain est trop souvent agité, dispersé, fragmenté. Nous devons apprendre à nous apaiser. Ça, j'aime beaucoup ça. Parfois, nous sommes mûrs pour un bon ménage, et là, il y a un mot que j'adore, un désencombrement. Il est préférable d'abandonner tout ce qui nous alourdit et entrave notre chemin d'évolution. Ça, il n'y a pas personne qui peut dire, ben voyons, foutaise. Pas vrai.
Non.
On est tous embourbés là-dedans. Christine Michaud, rappelons le titre de ce livre, Il est temps de vivre la vie que tu avais. Attends, Que tu t'es imaginé. Et ça, c'est une citation de Henry James, hein, je pense.
Exact, c'est une vraie citation.
C'est une vraie citation.
Oui, ça vient pas de moi. Et pour dire, par rapport à ça, tantôt, juste une petite note rapide.
Oui, bien sûr, bien sûr.
De ce que ça fait aux gens, ou tu sais, des commentaires de lecture. Si vous voulez voir ce que ça donne, il y a des... Moi, les gens me fascinent toujours. J'admire leur façon de prendre un produit comme un livre comme ça, de l'appliquer à leur vie et d'en témoigner. Et j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle les Dreamcatchers.
Oui.
Alors, il y a plus de milliers de personnes qui sont là-dessus actuellement et qui témoignent. Qu'est-ce que c'est la vie qu'ils s'imaginent? Est-ce qu'ils ont mis de l'avant? Est-ce qu'ils ont utilisé certains trucs du groupe de Dreamcatchers? Et qu'est-ce que ça a donné? C'est fascinant de les lire.
Est-ce que c'est les Dreamcatchers.com?
Non, c'est sur Facebook, fait que ça s'appelle les Dreamcatchers. C'est le groupe des Dreamcatchers. Mais si les gens viennent sur mes pages, ils vont vite y accéder. Là, c'est très facile à trouver.
Merci. C'est là-dessus aussi hein, que tu as la dernière lettre de Franny?
Oui. Non, celle-là, okay. On la reçoit par courriel.
Ah, okay, excuse-moi.
Ah non, ça, c'est un petit secret bien gardé.
Oh, zut!
Merci beaucoup, Christine Michaud. On vous laisse retrouver le soleil de la Floride.
Merci encore, Anne. Aussi.
Voilà, ben,
ça
Anne
me fait
Casabonne.
Tellement plaisir. Profite du beau soleil, là, parce qu'ici, il fait frette.
Oui.
Anne Casabonne qui va devenir une lectrice qu'on va retrouver souvent, je pense, dans les studios de Vues et Voix. Ça a été une belle expérience.
Oh, magnifique.
Merci, Anne Casabonne. Merci, Christine Michaud.
Merci, mais
je vous en prie, au revoir. Et on se retrouve, nous, pour la seconde partie. Là, je vous laisse avec Gracias a la vida, Mercedes Sosa. Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie, nous allons retrouver avec grand plaisir la délicieuse Claudia La Rochelle, porte-parole de Vues et Voix et chroniqueuse en toute amitié à cette émission des livres plein les oreilles. Et puis, je vous présente aussi les soirées Tupper Livres, ou si vous préférez Tupper Livres en France, ainsi que des titres désormais disponibles et accessibles à tous.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul. Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Thank you. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes. Sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs, puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul.
J'aime tellement ça, découvrir des gens que je ne connais pas. Et ça, c'est grâce à Mathieu Tessier que je viens de découvrir Bertrand Belin, qu'on vient d'entendre avec cette chanson « Sur le cul ». Semblait entendre un bachoum un peu moins sur l'acide. Bonjour Claudia La Rochelle, comment ça va?
Bonjour Clotilde, ça va bien, merci.
Alors Claudia, grâce à Mathieu, je découvre encore des gens dont je ne connais pas la musique et grâce à toi, je découvre des auteurs et, ou du moins des livres que je n'ai pas encore lus. Et c'est le cas du petit dernier de Jean Echenoz. Toi, tu dis Echenoz, Echenoz?
Oui, je pense qu'il faut dire Jean Echenoz, oui. Bon. Effectivement, Jean Echenoz qui nous avait, dans le passé, offert des romans complètement déjantés, c'est ce que j'aime chez Echenoz. Il y a le sens tragique, mais qui vire, le tragique qui vire toujours un peu au cynique, au grotesque. Il y a vraiment une voix très, très affirmée et bien, bien à lui. Alors, cette fois-ci, Vie de Gérard Fulmar, de Jean Echenoz, aux magnifiques éditions de Minuit, qui vient tout juste de sortir en librairie au Québec, donc un mois plus tard, un mois après la France, toujours comme ça que ça se passe. On a été chanceux parce que là, il y a vraiment, à cause de la grève dans les transports en France, il y a vraiment beaucoup de livres qui sont pris prisonniers de cette grève et qui ne peuvent pas nous arriver à temps. Alors, j'ai du mal à mettre la main sur certains titres, mais lui, il m'est parvenu. Alors, on l'a réchappé. Gérard Fulmar, qu'est-ce que c'est? Ben, Gérard Fulmar, c'est un sédentaire. C'est un gars qui habite l'appartement, le même appartement dans le 16e où sa mère habitait. Et curieusement, sur cette même rue-là, il est arrivé ou pas loin, à proximité, il est arrivé des trucs assez funestes, des événements un peu tragiques et c'est toujours un peu, comme je le disais, ça vire toujours un peu au comique, au grotesque, à l'image même d'ailleurs de cet homme qui s'appelle Gérard Fulmar, le personnage qu'a imaginé Jean Echenoz et qui joue très bien cette fois-ci avec les codes du roman d'espionnage, qui s'amuse avec le lecteur comme chaque fois. Puis il y a ce narrateur qui est toujours un peu du bord du lecteur, puis du bord, il est toujours à cheval entre le lecteur et l'écrivain. Bien sûr, quand on entre dans Jean Echenoz, il faut être au courant de ça, de ce jeu, oui, de ces techniques, cette pratique-là qu'il a depuis des années. Et c'est ce qu'il nous donne à lire, encore une fois, savoureux, Jean Echenoz, qui ne perd pas de plume au fil des années. Ouais.
Alors, je voudrais préciser pour les auditeurs qu'au moment où nous enregistrons l'émission et cette chronique avec l'émission amie Claudia La Rochelle. Le livre est sorti sur papier, n'est pas encore disponible en audio, mais c'est une question de jour. Autrement dit, cette émission qui va être diffusée, qu'on va pouvoir réentendre entre autres sur podcast et sur notre site internet à partir du 6 février prochain, au moment où elle sera diffusée, il y a toutes les chances pour que le livre audio soit déjà disponible, lu par Dominique Pignon, qui est un comédien français. Je le sais d'autant plus que ce livre, Claudia, ça je vais sûrement vous l'apprendre, te l'apprendre, va faire partie des 10 livres en nomination pour le prix Audiolib de l'année.
Alors donc, c'est ça.
Donc c'est pour ça que, en fait, ils sont en train de le finir au moment où on fait cette entrevue. Mais je suis désolée, je n'aurai pas d'extrait à vous faire entendre aujourd'hui, mais j'en aurai un très prochainement dès que le livre audio sera disponible, bien évidemment. Un autre livre. Bon, moi d'abord, un nom qui me dit vaguement quelque chose. Moi, quand on me dit Victoire Mas, je pense.
Victoria, en fait.
Victoria, oui. Je pense à Jeanne. Est-ce qu'elles sont en famille, c'est ça?
Oh, je sais pas.
Je pense que oui, parce que j'ai fait une petite recherche. Ouais. Eh bien oui, c'est la fille de Jeanne Mas. Vous vous souvenez? Ah. En rouge et noir, ta 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 ta. Ça vous dit rien, ça?
C'est pas vrai.
Mais oui!
C'est pas ça, Clotilde.
Comment? C'est pas... Mais non, mais ça fait rien. Mais non, mais c'est en tout cas c'est fou parce que ça me surprend pas parce que Jeanne Mas est toujours une femme absolument brillante et donc elle a mis au monde cette jeune femme Victoria Mas dont c'est le premier roman, hein, Le Bal des Folles.
Ouais, et non moins brillante Victoria Mas parce que il y a beaucoup de c'est très chargé, c'est très dense, c'est très brillant comme livre. On est dans quelque chose qui ressemble un peu à de la docu-fiction, Le Bal des Folles. C'est paru chez Albin Michel. C'est un premier roman de cette Française-là. Oui, ça a été en nomination pour plusieurs prix,
oui.
D'ailleurs, l'automne dernier. Donc, on se retrouve à Paris en 1885, plus précisément à l'hôpital La Salpêtrière,
oui.
En 13e.
Oui, la Pitié-Salpêtrière. Oui,
ouais, ouais. Exactement. Où il y a chaque année un bal qui est organisé. C'est une activité caritative organisée par le neurologue en chef, qui est le docteur Charcot, donc dont on entend encore parler dans l'histoire, et ce bal-là a bel et bien existé. Et ce qu'ils font et ce qu'ils croient bénéfique, c'est de faire en sorte que ces folles, donc c'est des femmes qui ont des problèmes de santé mentale, mais à l'époque on appelait ça des folles, et puis le titre porte ce qualificatif-là, sont invitées à danser devant le tout Paris, le gratin, les bourgeois de Paris, pour se donner en spectacle. Donc, on en fait une affaire très clownesque. On dit que c'est pour leur bien, alors qu'on se fout un peu de leur gueule, finalement.
Bien sûr.
C'est vraiment intéressant de constater à quel point on s'est servi de ces femmes-là comme des bêtes de cirque. Ça met à nu une certaine condition féminine aussi du 19e siècle, la santé mentale, de quelle manière on concevait les problèmes de santé mentale aussi, et quand, de surcroît, ça atteignait les femmes, alors là, on n'en parle même pas. Donc, on s'attarde surtout sur quatre personnages féminins qui vivent ce bal-là et qu'on suit donc comme lecteur.
Alors, je vous en propose un extrait. C'est le personnage de Geneviève qu'on va retrouver dans cet extrait-là. Je voudrais préciser le nom de la lectrice si je l'ai ici. Je ne l'ai pas, mais je devrais retrouver ça. Décidément, c'est un festival. Oui, je l'ai. Elle s'appelle Audrey Sourdive, celle dont on va entendre la voix. Et un extrait de le Bal des Folles de Victoria Mas.
Babinski introduit Louise sur scène. Submergée par le trac 10 minutes plus tôt, l'adolescente a changé de posture. C'est désormais les épaules en arrière, la poitrine gonflée et le menton relevé qu'elle s'avance vers un public qui n'attendait qu'elle. Elle n'a plus peur. C'est son moment de gloire et de reconnaissance. Pour elle et pour le maître. Geneviève connaît chaque étape du rituel. D'abord, le pendule qu'on balance doucement devant le visage de Louise. Son regard bleu immobile. Le diapason qu'on fait retentir, une fois. Et la jeune fille qui tombe en arrière. Son corps léthargique rattrapé de justesse par deux internes. Les yeux clos, Louise se soumet à la moindre demande. Effectue des gestes simples pour commencer. Lève le bras, tourne sur elle-même. Plie une jambe en petit soldat obéissant. Puis elle pose, selon les requêtes, joins les deux mains pour prier, lève la tête en suppliant le ciel, imite le crucifiement. Graduellement, ce qui paraissait être une simple démonstration d'hypnose progresse vers le grand spectacle. La phase des grands mouvements, annonce Charcot.
Voilà, ça a été lu chez Audiolib en France et c'est maintenant disponible si vous allez sur le site directement, mais
ça
disponible. Oui, hein, ça donne le goût beaucoup. Merci pour ce livre, le Bal des Folles, qui, on aime toujours entendre une femme se rappeler de ce que les femmes ont vécu et vivent encore. Hein.
Ouais.
Et ça, c'est encore un épisode assez douloureux que personnellement j'ignorais complètement.
Puis plein.
Le bal des folles, je veux dire, c'est inouï et c'est ignoble.
C'est fou, hein, ouais.
Autre chose, mais une petite minute parce que je pense que vous l'avez lu, La Panthère des Neiges. Ça, c'est chez Gallimard et c'est sorti dans la collection audio Écouter Lire. La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, qui a obtenu un prix récemment. Vous l'avez lu, enfin, tu l'as lu, toi, Claudia?
Oui, je l'ai lu il y a longtemps déjà.
Ouais.
C'est moins frais dans ma mémoire parce que j'ai toujours très, très à l'avance.
Bien sûr.
Donc, ça a obtenu le prix Renaudot 2019, ce livre-là. Il faut dire que ce qui est intéressant aussi de spécifier, c'est que il figurait pas parmi les finalistes au premier tour. Il a remporté le prix au deuxième tour par 6-2 pour la part du fils de Coatalem et 2 pour Pourquoi tu danses quand tu marches de Vabéry. Donc ça, c'est je lisais ça dans le livre hebdo, je savais pas. Mais bon, l'important, c'est qu'il a obtenu ce prix-là il a vendu déjà 50 000 exemplaires. Donc, ça fait vendre des gros prix comme le Renaudot. Alors, c'est très intéressant parce que ce qu'il a fait, il fait beaucoup ça, Sylvain Tesson. Il a décidé de partir à l'aventure. Il a rejoint les hauts plateaux tibétains parce qu'un photographe, le photographe Vincent Meunier, lui a dit, viens avec moi, je veux photographier une panthère des neiges, animal qui relève presque de la légende. Aujourd'hui, il y aurait comme juste 5000 spécimens encore en vie sur Terre. Et il a dit oui, et Sylvain Tesson, comme chaque fois, il a dit, je vais me servir de cette aventure-là pour écrire, parce que l'aventure fait beaucoup, le voyage, l'aventure fait beaucoup partie de son processus de création.
C'est ça.
Alors, il a écrit là-dessus sur l'attente, la patience que ça exige, la réflexion sur la cohabitation de l'homme et de l'animal, sur aussi l'environnement, ce qu'on fait à nos espèces sauvages.
Oui.
Donc, tout ça fait partie de ce récit-là qui a gagné le cœur des lecteurs et du jury du Renaudot.
Alors, on va se quitter là-dessus. Claudia, je te remercie beaucoup de nous en avoir parlé. Je vais en offrir un petit extrait à nos auditeurs, parce qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le livre, et tu vas t'en souvenir, c'est que c'est cette corrélation qu'il fait entre cette panthère des neiges et son ex.
L'homme.
Hein?
Son ex.
Oui, c'est ça, exactement. Merci, Claudia. Je te laisse là-dessus et on se retrouve très rapidement. Eh bien, et puis, bonne vie, bon temps, sois heureuse.
Oui, toi aussi. Bye-bye.
Bye.
Panthère. Le nom teinté comme une parure. Rien ne garantit ses dents rencontrer une. L'affût est un pari. On part vers les bêtes. On risque l'échec. Certaines personnes ne s'en formalisent pas et trouvent plaisir dans l'attente. Pour cela, il faut posséder un esprit philosophique porté à l'espérance. Hélas, je n'étais pas de ce genre. Moi, je voulais voir la bête. Même si par correction, je n'avouais pas mes impatiences à Meunier. Les panthères des neiges étaient braconnées partout. Raison de plus pour faire le voyage. On se porterait au chevet d'un être blessé. Meunier m'avait montré les photographies de ses séjours précédents. La bête mariée, la puissance et la grâce. Les reflets électrisaient son pelage, ses pattes s'élargissaient en soucoupe, la queue, surdimensionnée, servait de balancier. Elle s'était adaptée pour peupler des endroits invivables et grimper les falaises. C'était l'esprit de la montagne descendu en visite sur la terre, une vieille occupante que la rage humaine avait fait refluer dans les périphéries. J'associais quelqu'un à l'animal. Une femme qui ne viendrait plus nulle part avec moi.
Salagadula, Mitch Kabula, di baba di bo. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bibi di baba di bo. Zalga doula, mechka boula, bibi di baba di bo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibi di baba di bo. Salagadoula veut dire la menchika scoupé tout. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salagadoula menchika boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bo. Bébé di baba di, 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 bébé di baba di bo. Bébé di baba di.
À la délicieuse voix chaude de Stacy Kent. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles, ce qui ne nous empêche pas aussi de nous mettre de la bonne musique plein les oreilles entre deux. Ça, c'était encore une fois le choix de Mathieu Tessier qui est en régie aujourd'hui et que je remercie. Avez-vous déjà entendu parler, évidemment, des soirées Tupperware? Bon. Tupperware, comme disent mes copains français. Oui, si vous voulez, on n'est pas nés avec une patate chaude dans la bouche, nous autres pauvres. Et là, eh bien, les Français, très bonne idée, ils ont créé les soirées Tupperlivre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, quelle bonne idée, pourquoi on ne ferait pas ça? Foin des livres de recettes à réaliser dans un Tupperware, peut-on lire dans la revue, l'excellente revue virtuelle actualité.com. Une passionnée vient de bouleverser le schéma du bouche à oreille sur le modèle des réunions Tupperware où l'on découvre les 1000 produits plastiques commercialisés. Aline Berger propose des soirées Tupperlivre. C'est une autre manière de parler des livres ensemble. D'ailleurs, j'aime vous dire que de bouche à oreille, quand je cherchais un titre d'émission à cette émission, et c'est le premier qui m'était venu à l'esprit, mais il était pris. Bon, alors donc, les soirées Tupperware. La toute première expérimentation du principe s'est déroulée en Suisse, dans la ville de Carouge. Ça, c'est proche de Genève. Et c'était tout récemment, c'était le 19 décembre dernier, alors que une libraire qui s'appelle Véronique Rossier, a accueilli Aline Berger sous l'étiquette Librairie La Bergerie. Ça a été une grande aventure inédite. Véronique Rossier, qui a été jointe par Actualité, explique connaître Aline Berger depuis très longtemps. Elle avait une librairie, voilà plus d'une vingtaine d'années, spécialisée dans les livres rares à Lausanne. L'invitation avant Noël, période propice aux achats de livres, aura donné lieu à une magnifique soirée autour des ouvrages de la Guilde du Livre. Ce sont des objets magnifiques qui viennent de l'éditeur Albert Mermoux, avec un papier qui ne jaunit pas malgré les années. Et pour son plus grand plaisir, la librairie Et donc, la libraire, Madame Rossier, est devenue auditrice dans sa propre librairie. Elle dit que c'était un plaisir de l'écouter, tant elle est attentive au texte, avec des choix très méticuleux. Alors, cette première, elle est surtout provoquer un concept qu'Aline Berger, maintenant, a relaté à actualité. Le principe est le suivant. Elle reprend précisément celui des soirées Tupperware, mais avec des livres. Autrement dit, proposez-nous un thème, invitez vos amis et la bergerie se déplace chez vous pour vous faire des propositions de livres et pour vous en lire quelques extraits. Alors bon, en plus c'est moins polluant que le plastique et puis c'est quelque chose qui va demeurer très longtemps à votre esprit. Pourquoi pas les soirées Tupper Livres au Québec ? Il m'arrive souvent d'aller jeter un œil au catalogue du SQLA, le service québécois du livre adapté, via la Grande Bibliothèque de Montréal, pour aller voir un petit peu ce qui a été enregistré, pas forcément dans nos studios. Et alors, le principal, c'est que ces livres existent. Et lorsque je vois que, par exemple, le petit dernier d'Abla Faroud, qui s'appelle « Le dernier des Snoros », a été enregistré pour les personnes à visibilité réduite, voire nulle, eh bien, je trouve que c'est une assez bonne nouvelle pour vous en parler, même si, malheureusement, je n'ai pas d'extrait, parce que, venant du SQLA, on ne parvient pas à avoir d'extrait audio des livres qui sont produits. C'est dommage, mais ça ne m'empêchera pas de vous en parler. Ibrahim Abou Snobara, alias Snoro, est vieux et il est fou. Dans sa chambre d'hôpital, il pense à ses 5 sœurs, écrivaines, musiciennes, présidentes, doctoresses et madone. Qu'est-ce qu'il adviendrait d'elles, au pluriel, quand il ne sera plus là, et de lui, sans elle, dans cet ailleurs sans nom, où l'on ne dit plus « je ». Son regard se porte sur chacune avec une acuité qui pourrait sembler cruelle si Snoro n'était pas Snoro, et si le roman de ces derniers jours n'était pas empreint de l'humour et de l'humanité qui caractérise toute l'œuvre d'Abla Faroud. Laissez-moi vous lire un extrait de la critique parue dans Le Devoir sous la plume de Natalia Wysoska, qui est une collaboratrice de ce journal ainsi que de la presse d'ailleurs. Elle écrit « C'est donc en dotant cet homme qui se dit fêlé, cinglé, exalté, dépossédé, déprimé, morose, mélancolique et tourmenté, d'un regard franc, sans filtre, à la fois ciselé et naïf, que l'écrivaine Abla Faroud et dramaturge montréalaise née au Liban, faut-il le rappeler, le mène à parler de sa solitude et de fatigue, de ses vieux jours, c'est-à-dire maintenant, des crises que sa maladie lui fait vivre, qui le laisse le corps en feu, et de ses observations livrées de façon directe, qui frappent autant qu'elles surprennent. Exemple, je suis tout à fait seule maintenant, même pas les ronflements de mon voisin pour me tenir compagnie. Il est décédé. C'est du Abla Faroud, pur, dur et simple. Et quelle auteure merveilleuse! Je vous rappelle le titre et c'est au catalogue SQLA, Le dernier des Snoro. Et puis la prolifique Catherine Pancol voit son livre, le petit dernier, Bed Bug, maintenant disponible en audio. Si je retrouvais ma recherche, ce serait mieux pour que je puisse vous en parler. On parle ici d'une jeune biologiste qui s'appelle Rose, qui fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Et autour de Rose s'agite une constellation attachante et très pancolienne, nous dit-on. Un petit extrait de ce livre sorti chez Albin Michel et qui dure 8h24. Hein, comme toujours avec Pancol, c'est jamais tout petit.
Le lendemain, le laboratoire fermerait pour quelques jours. C'était donc maintenant ou jamais. Tu es libre pour dîner ce soir ? Dîner ? Toi et moi ? Oui, enfin, on pourrait peut-être... Il avait eu un petit sourire comme si elle était tombée de la lune en guêpière et barésille, un seau de météorite à la main. Il avait passé les doigts dans ses cheveux, les avait ébouriffés et avait dit « Waouh ! Attends une minute !» Elle avait pensé « C'est pas révolutionnaire comme demande, y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Il faut que je consulte mon agenda. » Il avait sorti son téléphone de la poche de sa parka. « J'ai pas mal de choses à faire avant de partir. » Il avait fait défiler son emploi du temps, froncé les sourcils. On aurait pu croire qu'il était contrarié. « Tu me prends un peu de cours. Vous êtes des rapides, vous, les filles. » « Bien fait pour moi. Ça m'apprendra à vouloir être courtoise. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma psy, la dernière fois ? Rose, il faut vous placer au centre d'un cercle, imposer une distance et quand il vous vient une pulsion, ne pas en subir la pression, mais tenter de savoir si vous avez vraiment envie de faire ce qu'on vous demande ou si vous n'obéissez qu'à la répétition de quelque chose qu'on vous a appris et qui ne vous appartient pas. Pour résumer, il faut vous demander si vous agissez sous influence ou si c'est votre choix. Posez-vous la question « Qu'est-ce que je veux, moi, Rose Robinson ?» Ensuite seulement, agissez.
Et alors autour de Rose, hein, des personnages savoureux, un amoureux qui a tout l'air d'un goujat sexy, un scientifique vénézuélien qui étudie le sperme des grillons, une chercheuse obèse qui tombe amoureuse toutes les 28 secondes, ou encore une mère reine des abeilles, bref, un bouquin à la Catherine Pancol qui s'appelle « Bed Bug ». Voilà mes amis, ainsi s'achève l'émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. J'ai été ravie une fois encore de l'animer pour vous en compagnie de mes invités. J'ai nommé Anne Casabonne, l'auteur, Christine Michaud et Claudia Larochelle, également du Parté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Marco Cagliari. Il sera question de la mafia. Ici Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne semaine. Belle lecture. Salut.